France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Un vaste bâtiment à l'extrémité sud du Jardin des Plantes. Des galeries. Des étages entiers, des centaines de mètres de galeries tapissées de vitrines. Et dans ces vitrines, des dizaines de milliers d'animaux perchés sur des branches, debout sur des socles, tous également immobiles, et qui me regardent de leurs yeux de verre. Oiseaux dont le plumage garde le souvenir d'arcs en ciel inconnus. Singes acrobates, crocodiles, antilopes cornues, lièvres, lions majestueux, gorilles, tels qu'en eux-mêmes, enfin l'éternité les chante.
Acteur majeur du paysage de la recherche française, le muséum a 400 ans. Et maintenant, quel rôle et ambition cette grande institution se donne-t-elle sur une planète qui montre ses limites et où la biodiversité subit de lourdes atteintes? Car plus que jamais, nous faisons partie de la nature et elle nous est vitale. Sa santé est donc la nôtre et l'humanité doit, de façon prioritaire, renouer avec elle des relations de coopération, de respect et de préservation. Aussi, à l'occasion de cette anniversaire et de la parution du dernier manifeste du muséum intitulé « La nature à ses justes valeurs », coordonné par Jeanne Lecomte et Frédéric Schluss, nous vous proposons une émission grand entretien avec le président du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Gilles Bloch.
Bonjour Aurélie Luneau.
Merci de votre présence. Vous êtes président du muséum, polytechnicien, médecin, chercheur en biophysique et en médecine. Je ne me trompe pas jusque-là.
Parfait.
Et avec vous, nous allons parler du muséum, bien sûr, de la biodiversité et des valeurs de cette nature. Enjeux, défis, avenir de la biodiversité au programme du magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission toujours préparée par Céline Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Anne Delaveau de l'INA, Vanessa Chang et Christine Anzano de la documentation de Radio France. Émission réalisée toujours aussi par Alexandra Malka, avec à la technique Alexandre Dang.
L'alouette qui reste, c'est plus qu'un quart de ce qu'on avait auparavant. C'est déjà bien d'en avoir une, mais c'est quand même pas beaucoup au regard de l'étendue d'espace ouvert qu'on a autour de nous.
On a perdu 80% de la biomasse en insectes ces 30 dernières années en Europe. Alors à l'échelle d'une vie humaine, 30 ans ça paraît déjà long, mais à l'échelle du vivant sur Terre, c'est ce qu'on appelle littéralement un écocide. D'avoir une prairie dans la région, c'est déjà un petit exploit. Une prairie qui n'est pas encore fauchée, là, qui est pâturée même, une prairie avec des arbres, une prairie avec des vieux chênes, avec une petite mare, avec autant d'habitats susceptibles d'accueillir un peu plus la nature.
Là, on entend déjà un troglodyte qui chante à côté de nous. On l'entend très bien, c'est celui qui fait des trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tip, tap, tip, tap, tip, tap. De la fauvette à tête noire. Elle finit toujours ses phrases de la même manière. Ba, 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 ba.
Reportage diffusé sur France 3, Hauts-de-France, le 17 juillet 2023. Gilles Bloch, nous avons entendu beaucoup de choses. On est dans cette immersion avec la nature, dont nous faisons partie. Il faut le rappeler, parce que on a souvent tendance à entendre la nature et nous. Non, nous ne sommes pas à côté de la nature, nous sommes dans la nature. Mais nous avons perdu près d'un tiers des populations d'oiseaux communs depuis les années 80. Moineaux, rouge-gorge, mésanges et tant d'autres. Il faut s'en alarmer.
Absolument. Et ça, c'est ce qui se passe, je dirais, dans nos campagnes, dans nos espaces forestiers. Ça a été dit, l'effondrement des oiseaux, c'est perceptible quand on va encore se promener dans ces espaces, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population française. La cause de ces effondrements, puisqu'on parle d'écosystème, c'est que l'alimentation de ces oiseaux, ce sont les insectes, plus généralement les arthropodes, 80% de diminution. Et là, quand on regarde les résultats d'études scientifiques, puisque le muséum est d'abord une grande maison scientifique, les causes sont indiscutables. Les grands systèmes agronomiques intensifs, c'est l'usage d'intrants chimiques, voilà, qui ont massacré un des maillons de la chaîne alimentaire.
En un temps record, tout cela s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument. C'est le développement d'une agronomie qui devait nourrir une population. Donc il y avait des motivations humaines tout à fait respectables. Mais on voit que la planète atteint ses limites.
Il faut de plus en plus d'intrants chimiques pour assurer les rendements.
Absolument.
Et ces rendements qui ont aussi besoin de pollinisateurs pour pouvoir nourrir la planète.
Voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce système agronomique intensif, il touche à ses limites dans certaines zones géographiques, dont l'Europe, et que inéluctablement, il faudra aller vers des transitions, vers une agronomie plus respectueuse, sinon on va droit à une catastrophe sur l'approvisionnement primaire alimentaire. Et si on dézoome un petit peu, parce que sur la biodiversité, qui est un des sujets de préoccupation majeurs du muséum, au-delà des espaces européens, on partage un bien commun qui est cette nature vivante dont nous sommes issus, dont nous profitons à la fois par des matières premières, mais aussi par une relation privilégiée avec cette nature. Cette nature, elle est en train de se dégrader partout dans la planète. Partout dans la planète. Et ça va à une vitesse incroyable. J'ai regardé là récemment des articles scientifiques qui ont mesuré la biomasse totale de la planète. C'est des chiffres qui ne sont pas très très connus. C'est un article, je cite l'auteur qui a inspiré, c'est un collègue israélien, Ron Milo, en 1850, au niveau des mammifères. Donc une grande famille dont nous sommes membres et qui nous parle de près. En 1850, les humains plus les animaux domestiques représentaient à peu près 200 mégatonnes de biomasse. Les animaux sauvages, donc les mammifères sauvages, représentaient 200 mégatonnes. Donc on était à peu près 1 pour 1. En 2000, hommes plus animaux domestiques, on est à 1100 mégatonnes. Donc fois 5,5. Les animaux sauvages, on est à 60 mégatonnes. Donc un effondrement quantitatif. Alors là-dedans, on ne regarde pas les espèces individuelles, hein, c'est des modélisations très globales. Effondrement d'un facteur 3, alors que les humains et leurs animaux d'élevage ont été multipliés par 5,5. Donc on est face à un effondrement absolument massif, qui va beaucoup plus vite que tous les effondrements qu'a connu la biosphère dans l'histoire géologique profonde de la Terre. Et le coupable, on trouvera toujours des opinions qui défendront des positions différentes, mais le coupable, c'est l'être humain, c'est nos sociétés très fortement industrialisées, avec une capacité à puiser sur les ressources de notre planète qui est en croissance exponentielle. Mmh. Voilà. Donc ça, il y a un jour, ça va devoir s'arrêter.
Et selon l'IBES, hein, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, environ 1 million d'espèces seraient à risque d'extinction d'ici 2040. Quand on sait que on a inventorié à peu près 2 millions d'espèces, je crois, sur entre 8 et 20 millions, chiffres, varient. On a une totale méconnaissance de ces espèces qui existent près de nous, autour de nous.
Alors, sur les mammifères, on est quasiment sûr d'avoir à peu près tout identifié, sur les oiseaux aussi, mais après, quand on descend vers les invertébrés, quand on descend surtout en taille vers des animaux microscopiques, vers des bactéries, des archées, etc., alors là, c'est là où il y a une barre d'erreur énorme. On n'est plus à 1 million près en termes d'identification des espèces. C'est pour ça que raisonner en nombre d'espèces, c'est parlant. Raisonner en biomasse totale, c'est assez instructif, parce qu'on voit bien que l'impact du développement de cette humanité industrielle depuis un siècle et demi Il est aujourd'hui indiscutable, comme le réchauffement climatique est indiscutable. Et donc, il faut que nos sociétés, sans renoncer à un certain degré de confort, à un certain degré de bien-être humain, d'accès à la santé, il faut qu'on arrive à changer de modèle, à aller vers des changements transformateurs, comme dit Libès, de nos sociétés. Donc, c'est repenser nos systèmes de production alimentaire, mais aussi tous nos systèmes de production industrielle, en ayant cette dimension le vivant non humain à l'esprit, qui doit représenter un compagnon du cheminement de l'humanité qu'il faut absolument respecter.
Et dont nous dépendons, c'est-à-dire que notre assurance vie, c'est le vivant non humain.
À moyen terme, pour la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants. Nous, on peut peut-être durer encore quelques dizaines d'années égoïstement sans trop se préoccuper, mais si on a une perspective intergénérationnelle, si on a une perspective mondiale, parce que nous faisons partie en France de ces pays très privilégiés qui, dès le 19e siècle, ont pu développer l'accès aux ressources naturelles à grande échelle, mais il y a d'autres zones géographiques qui ont été bien moins privilégiés et qui subissent ces changements globaux, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité de plein fouet, et qui vont être peut-être encore plus touchés que nous qui sommes finalement protégés par des systèmes extrêmement sophistiqués.
Et qui demandent juste à avoir un mieux-être, un mieux-vivre, là où du côté d'autres pays, on peut diminuer un petit peu dans le sens où nous sommes souvent en surproduction, en surconsommation. Et on n'a pas parlé ensemble, Gilles Bloch, de la question du gaspillage, mais ce gaspillage est alimentaire, c'est à peu près un tiers de ce que nous consommons normalement.
Et là, c'est des comportements individuels qu'il faut modifier dans nos pays, mais aussi des modes de production. On parlait au tout début de l'effondrement des oiseaux communs, l'effondrement des insectes, des arthropodes dans nos territoires européens. On sait qu'à moyen terme, c'est quelques dizaines d'années, nos systèmes agricoles ne seront plus soutenables. Et on connaît les solutions, de la polyculture, c'est replanter des haies, c'est supprimer au maximum les intrants. Donc on sait qu'à court terme, ça peut amener à quelques réductions de productivité, mais dans le moyen long terme, si on pense à ceux qui seront après nous, c'est indispensable. Et la question, c'est plus est-ce qu'il faut le faire, c'est comment, à quel rythme, pour que dans 50 ans, dans 100 ans, on est encore en Europe des environnements à peu près naturels, bien peuplés de non-humains.
On sait et on peut accompagner, puisqu'il y a beaucoup de travaux aussi qui sont menés par des institutions, comme l'INRAE par exemple, et d'autres, et qui proposent ces accompagnements. Si ce n'est que, Gilles Bloch, on voit bien dans des contextes aussi un peu plus compliqués. Alors on a compris, pratique agricole, exploitation des grands fonds marins aussi, artificialisation des sols, déforestation, surexploitation, pollution multiple, réchauffement climatique, tout cela atteint ce vivant. Et on voit qu'il y a une... Est-ce qu'on peut parler d'inertie ou d'incapacité à engager des transformations ambitieuses, d'ailleurs, pour relever le défi ?
Alors, je pense que le mode d'emploi, il est à peu près connu. Vous avez mentionné, sans les nommer précisément, les facteurs de oui. pression sur la biodiversité. Si on prend par exemple la réduction des zones non artificielles, il y a eu dans notre pays... Un mouvement de progression vers le zéro artificialisation nette, avec un succès encore limité, avec des hésitations politiques. Aujourd'hui, la France artificialise 200 km² par an. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Dans un pays dont l'Hexagone fait 550 000 km², c'est 0,4 pour 1000 de surface qui est érodé. Donc ça va très très vite. Et donc tous les écosystèmes qui sont dans ces territoires sont détruits avec des effets donc de proximité. Donc ça c'est un facteur massif. Tout ce qui est pollution, tout ce qui est changement climatique, bien sûr les prélèvements directs sur les ressources primaires que sont la pêche, que sont la chasse, qui est heureusement largement disparue. Mais il y a encore beaucoup de braconnage hein, pour certains animaux précieux et certaines espèces d'ailleurs végétales aussi qui font l'objet de collections.
Criminalité environnementale. Hein, aujourd'hui, absolument, on parle de absolument. Ça concrètement certaines et c'est puni et c'est traqué. Hein.
Absolument. Et le muséum d'ailleurs. À côté de la production de science, apporte à l'État français un certain nombre d'expertises et on est autorité nationale, par exemple, sur cette convention sur le commerce international des espèces menacées qui est la CITES.
La CITES, oui.
Et voilà, et donc on essaye, avec cette science que nous produisons, avec ces collections auxquelles nous sommes adossés, de jouer cette carte de régulation des échanges internationaux qui, pour certaines espèces, sont absolument dramatiques.
Alors, je vous parlais d'un contexte compliqué parce qu'on le vit aujourd'hui, instabilité politique en France, détricotage en matière d'avancée pour l'environnement sous le coup de pression de certains secteurs professionnels et de lobbies. La PAC, ZAN, donc zéro artificialisation nette, la loi Duplomb qui voulait lever des contraintes, qui a levé d'ailleurs certaines contraintes, mais qui était en faveur de dérogations pour des intrants chimiques et faciliter aussi les méga-bassines, etc. On a vu ce que ça a pu générer, mais en même temps, on voit bien que nous sommes dans un contexte géopolitique qui ne favorise pas la science et les scientifiques, et avec des visions du monde qui se télescopent et entrent en tension.
Absolument. On a fait des avancées. On a des grandes conventions sur la biodiversité biologique, des grands mécanismes. Vous aviez mentionné l'IBES, donc et ce GIEC de la biodiversité, qui est une grande coalition d'États avec pratiquement 200 États qui sont membres ou associés, des centaines et des centaines d'experts scientifiques, pour partager ce constat, faire des préconisations sur les trajectoires d'évolution pour nos socio-écosystèmes, comme on dit aujourd'hui. Et donc, on connaît ces trajectoires. Après, le problème, c'est de les faire accepter par les populations. Et là, c'est clairement le rôle des politiques de porter ces sujets. C'est le rôle d'un certain nombre d'institutions académiques dont le muséum fait partie, de former des gens, d'instruire, de sensibiliser tous les publics directement. Mais à la fin des fins, les leviers d'action, c'est quand même l'acteur public qui régule et la bonne volonté de certains acteurs économiques qui doivent montrer le chemin. On essaye au muséum de beaucoup dialoguer avec les entreprises. Moi, je pense que nos sociétés modernes, elles fonctionnent parce qu'il y a des collectifs qui produisent et que si ces entreprises ne s'approprient pas cette transition écologique et ce respect de la biodiversité, le changement ira beaucoup plus lentement.
Oui, nous allons continuer à avoir ces tensions et ces visions du monde qui se télescopent, ce qui n'est pas forcément à encourager. Alors dans ce paysage, le muséum et ses chercheurs jouent un rôle. Nous allons le comprendre dans la suite de l'émission. Et avant d'en discuter, je vous propose, Gilles Bloch, un petit retour dans le temps. Écoutez la voix de Roger Haim, qui a dirigé le Muséum National d'Histoire Naturelle de 1951 à 1965. Il s'exprimait sur la RTF, la radio-télévision française, le 28 mai 1952, dans l'émission Paris vous parle.
C'est le rôle que le Jardin du Roi, puis le Muséum National, ont joué depuis trois siècles, et dont le point de départ réside dans la médecine. Ce sont les nécessités de développer les connaissances médicales, hors du périmètre des dogmes, et de les faire reposer sur des faits nés de l'observation dans la nature vivante, qui a été, en quelque sorte, à l'origine même du Jardin du Roi. Ensuite, au moment des grandes époques d'exploration à travers le monde, les voyageurs et les naturalistes de cette maison se sont répandus à travers les contrées lointaines d'où ils ont rapporté des végétaux utiles, des animaux nouveaux. En même temps, le conservatoire, le cabinet d'histoire naturelle, s'est monté avec ses reliques et ses spécimens, et parallèlement, un enseignement né du progrès des sciences auquel cet établissement participait, s'est développé enseignement d'une part rigoureusement scientifique et universitaire, et d'autre part enseignement populaire reposant sur des cours publics, qui est un des caractères, une des originalités du muséum. Un certain nombre d'excellents professeurs qui ont joué un rôle au point de vue du public et des étudiants qui venaient être nombreux à leurs cours, comme Fourcroy, comme Rouel, comme Frémy, on peut dire d'eux qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la détermination de nombreuses vocations, non seulement de naturalistes, mais de chimistes et de physiciens.
C'était Roger Haim, donc, qui a dirigé le muséum de 1951 à 1965. Il était ingénieur chimiste de formation, mais botaniste passionné de mycologie, centralien. Il avait été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1942, mais dénoncé et déporté. Il sera libéré en 1945, élu à l'Académie des sciences en 1946. Et on l'entend parler de cette vieille dame de 400 ans. Aujourd'hui, Gilles Bloch, il évoque ce centre de recherche, l'université, enfin, les étudiants, le public, la mission reste la même, si ce n'est qu'aujourd'hui elle est plus développée. Alors parlez-nous justement de cette vieille dame, mais avec sa modernité.
Alors cette vieille dame, aujourd'hui, elle a atteint, je dirais, un certain équilibre dans la diversité de ses missions. Roger Haim le disait, bon, nous sommes un muséum avec ce nom qui a été donné au moment de la Révolution française, hein, quand le muséum d'histoire naturelle, à l'époque il n'y avait pas encore le national, oui, a été créé en 1793. Et donc, bien évidemment, un muséum, c'est un lieu où on collecte et entretient des collections naturalistes. C'est un nom qui est utilisé dans le monde entier. On est aussi un très gros centre de recherche. Parmi les muséums internationaux, on est probablement le plus gros. Alors on se chipote avec le muséum de Washington pour savoir qui est le plus gros, mais je pense qu'ils mettent dans le périmètre peut-être des choses un peu différentes. Bien sûr, l'enseignement. Le muséum est une petite université qui délivre le doctorat, qui délivre un master en coopération avec Sorbonne Université désormais. Bien sûr, nous sommes aussi un musée. Le plus grand musée scientifique de France, il faut le dire, de par la multiplicité de nos sites, quand on agrège l'ensemble, nous sommes entre 3 millions et 4 millions de visiteurs par an, ce qui nous positionne très très honorablement aussi parmi les grands musées de France. On est entre la 3e et la 4e place, hein, en nombre de visiteurs, derrière le Louvre, Versailles et au coude à coude avec le musée d'Orsay.
Et quand vous parlez des sites, il y en a combien? Une dizaine,
12 sites exactement, 10 qui peuvent accueillir du public, très concentrés sur le Jardin des Plantes, Paris, l'Île-de-France, et puis quelques sites sur lesquels on aura peut-être le temps de revenir en région. Voilà, et puis au-delà de ces activités, je l'ai mentionné tout à l'heure avec la CITES, une activité d'appui aux politiques publiques. Nous sommes, par exemple, je rencontrais hier le nouveau préfet des Terres australes et antarctiques françaises. Nous sommes l'autorité qui collecte les données et les modélise pour proposer à l'État français des quotas de pêche de la légine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est
oui,
la légine,
mais
les gastronomes
quand même,
la connaissent. C'est un poisson, voilà, d'eau froide qui représente à peu près 10% de la valeur ajoutée de la pêche française et donc une population fragile, surveillée, régulée par des politiques de gestion de stock.
Parce qu'elle est très convoitée.
Très convoitée, c'est un produit peu présent sur le marché français, mais très présent en Asie. Oui. Voilà. Et donc, c'est le muséum qui se trouve être l'expert national sur les préconisations dans la gestion des pêches. Et nous assumons d'autres types d'expertise pour l'État français, parfois aussi pour des acteurs privés qui nous sollicitent. Donc, toute cette palette d'activités, ça représente aujourd'hui un équilibre que je trouve très sain, parce que ces activités s'enrichissent mutuellement, se stimulent. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Initialement, l'ancêtre du muséum, qui était donc le Jardin royal des plantes médicinales, c'était une institution à vocation médicale. Le roi Louis XIII a créé cette institution à l'instigation d'un de ses médecins, c'était le médecin ordinaire Guy de la Brosse, pour former des médecins, former des jardiniers pour cultiver des plantes médicinales. Donc il y avait vraiment une vocation très anthropocentrée, très finalisée autour de la santé humaine. Et peu à peu, l'histoire a dézoomé ce focus initial, avec déjà une grande curiosité pour l'ensemble des espèces rares. C'est ce qu'on disait à l'époque, avec déjà des débuts de collection au XVIIe siècle. Et la bascule s'est vraiment faite au XVIIIe, avec les Lumières, avec ce grand personnage Buffon qui a dirigé le muséum pendant pratiquement un demi-siècle et qui a fait cette transition entre une institution historiquement centrée sur un sujet médical vers la grande institution de référence européenne, mondiale à l'époque en histoire naturelle.
Et cette institution, hein, vous venez de nous embrosser un portrait pour qu'on en mesure justement l'importance, et on voit combien cette importance a pu être repérée aussi à l'extérieur, puisqu'elle a subi des attaques depuis l'été dernier, la cyberattaque du 28 juillet 2025 notamment, le vol de spécimens d'or natifs dans la nuit du 15 au 16 septembre est venu s'ajouter, et donc tout cela génère des enquêtes. Cette cyberattaque, elle dit beaucoup quand même aussi, puisqu'on est là dans une politique probablement de tentative de décrédibiliser la science, de réduire les moyens d'agir et de renseigner l'état du vivant et donc d'œuvrer. Comment vous l'analysez tout ça ?
Alors, très clairement, comme dans toute cyberattaque, en tout cas dans notre pays, on regarde d'abord, est-ce qu'il y a une demande de rançon ? La politique française, c'est de ne pas répondre, de même pas accuser réception des mails. Et donc personne n'a insisté. On regarde ensuite s'il y a eu des vols de données, puisque nos systèmes d'information ont été pénétrés assez profondément. Donc potentiellement, il y avait des fuites de données. Là aussi, quand on regarde le dark web, des mois après, il n'y a rien qui apparaît. Donc quand on réfléchit, quand on regarde ce qui se passe, que d'autres universités en France ont été attaquées.
Comme en Allemagne, le muséum de Berlin, je crois.
Le muséum de Berlin a été très très gravement attaqué, avec pour eux une perte définitive de beaucoup de données. Nous, on avait eu la chance, grâce à l'État français, de pouvoir investir sur nos systèmes d'information, et on n'a pratiquement rien perdu en termes de données, que ce soit des données scientifiques ou des données de gestion. Et donc, l'hypothèse restante, c'est tout simplement des actions de déstabilisation d'institutions qui ont une certaine influence. Je pense que le muséum est un muséum engagé, qui porte des valeurs de tolérance, d'humanisme, qui est un ferment, je pense, de démocratie. Et il y a sur la planète des régimes que ça dérange. Et donc, clairement, pouvoir affaiblir temporairement, parce que heureusement on récupère, on est dans une trajectoire de réinstallation de beaucoup de nos systèmes d'information après juste 6 mois d'affaiblissement.
Et on voit que ça a mis du temps quand même.
Toutes les institutions qui ont subi ce genre d'attaque, elles savent que le temps de récupération, c'est 1 à 2 ans quand tout va bien. Parce que reconstruire des gros systèmes d'information où sont stockés des téraoctets de données, où sont hébergés des centaines de machines virtuelles, comme disent les informaticiens, c'est-à-dire des sous-systèmes...
Qui conservent toute la connaissance.
Absolument.
Et donc justement la cartographie qui permet de mieux comprendre l'évolution d'aujourd'hui. Donc c'est précieux, en fait, ces données sont extrêmement précieuses.
Nous avons parmi nos grandes bases de données l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, l'INPN, qui est cette très grosse base de données qui décrit les espèces, les environnements à l'échelle de tout le pays. Et ça, typiquement, c'est une base de données importante qui est indisponible depuis des mois, qu'on va réinstaller en priorité dans les mois qui viennent.
On perd notre mémoire, en fait, c'est ce que vous dites.
Je pense que une des intentions potentiellement des cyberpirates, c'est de détruire définitivement. Et ce qui s'est passé à Berlin, où il y a eu de la perte de données, et là, c'est des décennies de collectes d'informations qui sont perdues. Nous, on n'a rien perdu. On est en train de de réinstaller à partir des sauvegardes sur bande magnétique la totalité des données. Mais c'est d'abord un ralentissement temporaire. Et puis, comme vous l'avez dit, un affaiblissement de l'appui qu'on peut apporter à l'État français dans le concert des nations, puisque nous sommes partie prenante à travers l'État français, à travers l'Europe, de beaucoup de discussions au niveau international. Et donc, affaiblir certains acteurs, c'est rendre ces débats qui visent à mieux protéger le vivant, à mieux protéger l'environnement, moins efficaces.
Alors, on soupçonne, c'est des hackers de pays, on va dire, peu démocratique.
Voilà, je ne peux pas dire
mais non,
avec
l'enquête
certitude,
est en cours.
Voilà.
Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, aujourd'hui, Gilles Bloch, il y a aussi plusieurs actualités avec le muséum, à la fois l'anniversaire, mais aussi le manifeste, la nature à ses justes valeurs. Je vous propose d'écouter d'abord et de plonger dans ce reportage diffusé sur France 24 le 10 mai 2025, avant de nous intéresser à ses valeurs.
C'est l'été, la neige a disparu. La fourrure blanche aussi. Certaines portées peuvent atteindre 10 renardos, autant d'animaux qui seront relâchés dans le Grand Nord. Les voici 8 mois plus tard, juste avant le grand voyage vers la vie sauvage. Oreilles et museaux plus courts que ceux des renards roux. Chaque année, des dizaines de cages partent à travers la Norvège. Recréer une population de renards suffisamment nombreuse pour qu'elle s'étende dans toute la Scandinavie. Dans les boîtes, ils sont prêts pour le grand jour. Il fait moins 20 degrés, une température qu'ils supportent facilement. Pour assurer la transition, quelques points de nourriture sont disséminés aux alentours.
Leur retour à la vie sauvage, c'est le plus beau moment de l'année. On les nourrit de façon temporaire pour atteindre une population viable, durable, et ensuite on arrêtera.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Le renard blanc d'Arctique, Gilles Bloch, une espèce en danger mais qui vous tient vraiment à cœur et qui dit beaucoup d'ailleurs de ces notions de valeur données à la biodiversité.
Absolument, nous avons choisi cet animal assez emblématique pour attirer nos mécènes lors de notre dîner de gala de l'an dernier. Voilà, c'est une espèce menacée par le changement d'environnement au niveau de l'Antarctique, puisque, comme ça a été dit, c'est un animal qui change de couleur avec les saisons. Et quand son environnement est perturbé, il se retrouve à être beige sur fond blanc ou blanc sur fond beige, et dans ce cas-là, ces prédateurs le trouvent très facilement.
Et alors vous parlez, j'en profite, vous parlez des mécènes, Gilles Bloch, je crois qu'on peut lancer un petit appel quand même à l'État, parce qu'il faudrait se préoccuper de la vieille dame qui a une vieille robe, on va dire, et qu'elle met très bien des atours un peu plus modernes, en tout cas elle mérite d'être, en matière de bâtiment, d'être restaurée.
Oui, alors c'est un sujet que j'ai pas évoqué dans l'histoire rapidement évoquée du muséum. Nous avons un patrimoine extrêmement riche qui a été constitué autour du Jardin des Plantes par le comte de Buffon. Puis au XXe siècle, on a enrichi ce patrimoine avec un certain nombre d'acquisitions, d'autres institutions qui nous ont été confiées, comme le muséum, comme le musée du Trocadéro, oui. Qui est devenu le musée de l'homme, etc. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a un très gros patrimoine, largement d'un statut de classé monument historique. Ça représente à peu près 180 000 m², 120 bâtiments avec des choses superbes. Si vous allez vous promener au Jardin des Plantes, vous verrez la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, qui est un endroit juste magique. Moi, j'y emmène de temps en temps des collègues étrangers. Chaque fois, ils sont sidérés par la beauté de ces lieux. Mais c'est des bâtiments qui, donc pour certains, datent du début 18e. Beaucoup, les grandes galeries qui sont le long de la rue Buffon datent presque toutes du 19e, à l'exception de la galerie botanique qui a été construite en 1935. Et tout ça vieillit.
Voire même s'enfonce.
Le muséum
L'hôtel de Manny s'enfonce.
Voilà, a bénéficié de crédits d'investissement de quelques millions d'euros par an dans les dernières décennies.
Mais là, il faut aider.
Et aujourd'hui, on a un passif de rénovation qui est absolument colossal. Suivant comment on compte, c'est entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Et voilà. Et donc moi, depuis que je suis arrivé, infatigablement, je plaide auprès de l'État et je suis écouté. Donc je garde beaucoup d'espoir. Mais au-delà de ce que peut faire l'État dans une période économique
difficile. Mais là, il y a urgence, c'est
voilà,
ce que vous dites.
On travaille aussi avec des mécènes, mais on est sur des montants où les mécènes français ont peu l'habitude de donner, à la différence de ce qui peut se passer aux États-Unis. Et voilà, donc on saisit cette occasion à la fois de parler à des mécènes qui voudraient s'intéresser à notre situation et de rappeler à l'État que c'est très important pour une institution qui a 4 siècles, si on veut qu'elle ait 5 siècles à peu près dans le même état, de l'accompagner dans cette marche d'investissement qui est indispensable.
Alors pour apaiser les mœurs et peut-être convaincre ceux vers qui vous vous tournez pour le message, on va écouter votre choix musical et on reprendra notre discussion sur les valeurs de la nature après, si vous voulez bien. Vous nous avez proposé la sonate pour violon et piano de César Franck. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous écoutez justement dans certaines situations quand votre bureau s'enfonce, vous écoutez cette...
Alors, c'est une très belle sonate. Bon, il y a plusieurs mouvements, je ne sais pas lequel a été sélectionné, mais que j'aime énormément. Et puis, c'est un souvenir littéraire, puisque pour certains de vos auditeurs qui aiment Proust, c'est une des hypothèses de la sonate de Vinteuil. Voilà, donc...
L'accompagnement justement de cette sonate pour violon et piano de César Franck. Nous poursuivons le magazine de l'environnement sur France Culture de Cause à Effet en compagnie de Gilles Bloch, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, polytechnicien, médecin, chercheur en biophysique et en médecine, et à l'occasion des 400 ans du Muséum et de la parution du dernier manifeste du Muséum intitulé « La nature à ses justes valeurs », nous nous immergeons dans l'institution et dans le vivant autre qu'humain, une biodiversité dont nous dépendons, faut-il le rappeler, nous humains et dont la richesse reste encore à découvrir. Alors concrètement, Gilles Bloch, quand on parle des valeurs de la nature, quand on plonge justement dans le manifeste, on voit qu'il y a 3 valeurs qui sont retenues, instrumentales, relationnelles, intrinsèques, mais qui disent beaucoup justement de ces rapports, de nos comportements aussi avec la nature et les pressions aussi sur les écosystèmes qui découlent de nos comportements et qui découlent aussi du mot valeur qu'on met derrière la nature.
Absolument. Alors, je pense que tous les auditeurs comprendront ce que c'est que la valeur instrumentale, puisque c'est la plus immédiate dans nos sociétés industrielles, de modèles capitalistes, libéraux, depuis le 19e siècle, utiliser la nature au bénéfice de l'homme, au bénéfice des sociétés, comme source primaire d'alimentation, de matières premières. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Il y a aussi des services rendus par la nature qui rentrent dans cette catégorie. On pense à la purification de l'eau, on pense... il y a un joli exemple qui est cité dans le manifeste, c'est dans des zone où on voudrait réguler les crues, la capacité de certaines espèces à construire des barrages naturels. Voilà, les castors construisent des barrages sur des rivières qui vont réguler les crues. Donc ces valeurs instrumentales, ça domine la représentation que nos sociétés se font de la nature. Or, si on veut que cette nature puisse être protégée, puisse être restaurée par nos sociétés, ces valeurs intrinsèques ne suffisent pas. parce que mécaniquement, nous sommes dans des sociétés de marché, nous sommes dans une économie mondialisée qui rend inaudible la perception des autres valeurs. Et donc, il faut faire émerger ces autres valeurs. Ces autres valeurs, c'est des valeurs relationnelles, donc c'est comment l'être humain, nos sociétés interagissent de façon non marchande, non utilitaire pour satisfaire des besoins primaires avec la nature, avec la biodiversité. Et là, donc, on pense à la relation esthétique, on pense à la relation culturelle, on pense à la relation parfois spirituelle avec la nature. Et donc, faire émerger ces valeurs dans l'évaluation du respect de la nature et de la biodiversité, c'est extrêmement important.
Dans une société qui s'est, pour beaucoup, déconnectée ou qui ne s'est même pas connectée, selon les générations, au vivant de la nature.
Et donc, il faut que ces valeurs non utilitaires puissent être intégrées dans l'analyse, par exemple, avant l'aménagement d'une zone industrielle, avant la création d'une autoroute, avant de délivrer un permis pour aller ouvrir une mine d'or en Guyane, comme ça a été le cas sur cette montagne d'or qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et qui finalement a été préservée
grâce aux populations, aux populations autochtones
et à la preuve qui a été faite par la science qu'il y avait une civilisation précolombienne qui...
Des sites sacrés, des terres ancestrales importantes pour les populations locales.
Et ça, donc, c'est pas la valeur marchande des espèces ou d'animaux ou de l'or local qui peut amener ce genre de décision. Et donc, les troisièmes valeurs, c'est ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques. Donc ça, c'est la nature, les espèces pour elles-mêmes, indépendamment de l'être humain. Et là, donc, ça renvoie à la notion de protection d'espèces en tant que telles. Et ça renvoie à des systèmes moraux. Nous sommes dans des systèmes moraux très anthropocentrés. Hein. C'est l'être humain qui est la mesure de la valeur morale. Or, il y a d'autres systèmes moraux, des systèmes moraux qu'on dit pathocentrés, c'est-à-dire qu'on évalue une espèce par sa capacité à ressentir de la douleur, donc d'où toutes ces législations sur la protection, notamment des animaux, en fonction de leur capacité de ressentir des signaux nociceptifs. Et puis on peut aller jusqu'à des valeurs intrinsèques autour de l'ensemble des systèmes vivants, donc ce qu'on appelle les approches biocentrées, les approches écocentrées, évocentrées, voilà. Donc différents cercles de perception de l'importance du vivant dans les systèmes moraux. Ces trois systèmes de valeurs, ils s'excluent pas. Ils sont souvent en tension. Et la seule façon d'accompagner les changements transformateurs dont nous avons besoin pour respecter ce patrimoine vivant dont nous avons absolument besoin dans le long terme, c'est de faire rentrer ces autres systèmes de valeurs dans l'évaluation d'impact de tous les projets que nos sociétés, que des individus, quand on créer une extension de sa maison. Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer une extension de sa maison? Est-ce qu'on ne peut pas simplement un peu réaménager ou construire sur pilotis en respectant la biodiversité du sol? Voilà, tout un tas d'échelles de prise en compte qui nous amène à la fin à prendre des décisions plus respectueuses.
Questionner l'empreinte humaine et questionner nos normes occidentales, puisque la nature est souvent traduite en chiffres, des espèces, des surfaces, des stocks, des flux, etc. Et c'est un manifeste que je conseille vraiment, car il est très très riche et il nous questionne aussi sur le capitalisme, les dominations, l'idée d'une croissance illimitée, ses effets sur les écosystèmes et le vivant. Vraiment, domination, accaparement, c'est au cœur de ce manifeste qui vraiment nous donne à comprendre juste la notion de valeur et nous fait beaucoup réfléchir.
Alors, il fait réfléchir et je pense qu'il trace des directions dans la délibération préalable à toute décision pouvant impacter la nature. Il ne faut pas juste laisser les approches quantitatives dominer. Il faut des approches plus inclusives avec des populations locales ou autochtones qui ont leur mot à dire. Et ce n'est pas toujours le cas dans nos systèmes de décision.
Parce que nous avons des devoirs et des responsabilités face à la situation du vivant, rappelons-le. Gilles Bloch, allez, je vous emmène dans un endroit qui va réveiller certainement des souvenirs d'enfance. Partons en Guadeloupe avec ce reportage diffusé sur France 24 le 5 juin 2023.
À 1600 km de la métropole, la Guadeloupe, celle que l'on surnomme l'archipel papillon, déploie ses ailes multicolores. Chaque année, 600 000 voyageurs sont attirés par sa nature exceptionnelle, à commencer par son grand bleu et le peuple qui l'habite. Cédric est guide naturaliste. Il emmène ses clients à la découverte de la faune marine de la Guadeloupe, quand elle veut bien se laisser approcher. Un balai de dauphins tachetés. C'est l'une des espèces les plus sociables et les plus joueuses.
À la naissance, ils font à peine 50 cm de long. Et puis, ça grandit assez vite. À un an, ils ont déjà un mètre. Et puis, à deux ans, ils font la taille adulte.
Gilles Bloch, la Guadeloupe. Allez, confiez-nous pourquoi, justement, il y a cet endroit-là qui est si spécifique pour
c'est
vous.
Des souvenirs d'enfance, puisque je suis né en Guadeloupe. Hein, c'est un accident... De parcours professionnel de mes parents qui sont ensuite rentrés dans l'Hexagone. J'avais à peine 3 ans, mais c'est une île où nous sommes retournés en famille régulièrement parce que mon père avait gardé des activités en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et donc, moi, c'est des souvenirs de grand enfant, de jeune adolescent. Moi, je suis un petit peu claustrophobe, donc je plongeais avec un masque, un tuba. Et donc, dans les années 60-70, on pouvait encore avoir le tuba, le ventre caressé par les coraux, et voir cette faune, cette flore extraordinaire. Quoi. C'est plutôt de la faune, les coraux, avec tous les petits poissons qui se promènent là-dedans, les oursins noirs, là, avec leur pic bien agressif. Voilà, donc moi, j'avais pas besoin d'aller dans les aquariums de la Porte Dorée pour voir ces espèces.
Vous l'avez vécu.
Et donc, savoir que tout ça a disparu ou est en train de disparaître inéluctablement, c'est des écosystèmes fragiles, impactés directement par le réchauffement climatique. C'est absolument dramatique. Et quelque part, moi, ça m'a fait... réfléchir avec la maturité sur la façon dont, dans un parcours individuel, on peut participer à changer la trajectoire négative que nous suivons collectivement.
Oui, parce qu'on perçoit votre émerveillement avec ce vivant et que vous connaissez bien, et que ce soit à la fois l'océan ou la montagne, mais votre vie personnelle vous a amené cette richesse. Et votre parcours professionnel vous donne aussi des armes, peut-être, pour mieux engager le muséum vers son devenir et son avenir, et le rôle qui est le sien aujourd'hui. On peut peut-être brosser votre parcours, Gilles Bloch, donc polytechnicien, médecin, chercheur, passé par de grandes institutions. Début de carrière au CEA, commissariat à l'énergie atomique en 1989. Ensuite, vous rejoignez en 2002 le ministère chargé de la recherche en tant que conseiller pour les sciences du vivant. Vous êtes quand même sur les sciences du vivant. 2005, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, hein, qui fête ses 20 ans d'ailleurs. Donc, une belle institution.
J'y étais, c'était un très bon moment.
Et donc, c'est votre premier poste en responsabilité de directeur. Et en 2006, la direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche. Retour au CEA en 2009, 2015-2018, président de l'Université Paris-Saclay, puis de l'INSERM. Et l'INSERM, là encore, l'Institut National de la Santé et de la Recherche. Vous avez d'ailleurs, dans vos activités, vécu la crise de Covid-19 et ses suites. Donc, la notion de One Health, c'est-à-dire une santé, une planète. Voilà. Comment vous voyez-vous ce fil continu jusqu'à aujourd'hui, le muséum, puisque vous avez pris vos fonctions le 1er septembre 2023. Est-ce que c'est logique pour vous ? Alors, finalement, vous êtes là et...
Alors, bon, un parcours professionnel, c'est des hasards, c'est des rencontres, c'est des bifurcations. Mais c'est vrai que je suis passé de la médecine à l'encadrement supérieur de différentes institutions, avec toujours cette culture médicale qui était quand même profondément ancrée. Et le moment de la crise Covid, je crois, a été un moment où tout le monde a réalisé, même si depuis on a un petit peu oublié cette connexion de l'humanité avec le non-humain. Et le Covid-19, c'est juste une espèce exotique envahissante hein, qui nous est tombée dessus avec un passage à l'homme qui s'est fait dans des conditions qu'on n'a pas pu reconstituer avec certitude. Mais une des hypothèses, c'est que c'est quand même une perméabilité avec des circulations d'animaux sauvages sur des marchés à Wuhan. Voilà. Et là, on a réalisé l'effet dévastateur au niveau de la société humaine que pouvait avoir ce désordre dans les écosystèmes à l'autre bout de la planète. Et ça a fait réfléchir beaucoup de monde. Beaucoup de personnes ont cru en 2020-2021 que l'humanité allait basculer dans une plus grande sagesse. On avait vu les avions...
On y a cru, en tout cas.
On y a cru, ouais. Transitoirement.
Bah, les discours engagés à cette réflexion-là, mais voilà. Bon, ça n'a pas tenu longtemps.
Et bon, sur le trafic aérien, ça n'a pas tenu longtemps. Ouais. Sur la conscience du côté continu du vivant humain, du vivant non humain, du non vivant, parce que le vivant, il se construit à partir du non vivant et il se nourrit du non vivant. Je crois que ça a été une prise de conscience que beaucoup de personnes ont connue et gardent en tête. Ce qui fait que moi, quand je me suis retrouvé après l'INSERM à me dire qu'est-ce que je peux faire encore pendant une petite décennie d'utile, j'ai trouvé que le muséum était une maison absolument fascinante de par la diversité de ses activités et puis de par ce positionnement très engagé avec toute la légitimité de la profondeur historique, de la qualité scientifique, d'être une voix qui porte directement auprès du public, vers les pouvoirs publics, pour alerter, pour informer sur cette fragilité de la biodiversité qui est un des chaînons de ce réseau One Health.
Voilà, une santé, une planète. Alors, quels sont les gros projets à venir, justement, dans cet avenir et avec cette implication du muséum dans la compréhension des écosystèmes et de notre devenir?
Alors, bon, nous avons des dizaines et des dizaines de projets en parallèle.
On imagine. Mais les plus importants.
Si on regarde les grosses masses financières, le muséum avec le CNRS a été lauréat d'un projet et équipement prioritaire de recherche. On retient maintenant que l'acronyme PEPR, donc un gros financement d'environ 45 millions d'euros sur une décennie, pour décrire les écosystèmes terrestres et en particulier la relation arthropodes pollinisateurs avec la biodiversité terrestre et les agro-systèmes environnants pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe de manière beaucoup plus fine que ce qu'on fait aujourd'hui, pour pouvoir construire des modèles prédictifs et donc nous permettre dans quelques années à partir de scénarios d'évolution de nos sociétés de faire des prévisions plus fiables sur les trajectoires de la biodiversité. Donc c'est un très gros programme qui a été construit au cours des deux dernières années et qui devrait maintenant démarrer. On a toutes les signatures, on n'a plus qu'à maintenant signer les conventions qui vont bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez emblématique. Je pense que ça va avec aussi le besoin pour le muséum et pour les communautés d'histoire naturelle de progresser aussi sur tous les enjeux de numérisation des collections. Ça, c'est un sujet majeur qui parle peut-être moins à nos auditeurs. Mais l'histoire naturelle, c'est construite avec des collections physiques, des spécimens matériels. Aujourd'hui, la science se fait de plus en plus avec des objets numériques sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut faire tourner un certain nombre d'algorithmes particulièrement efficaces. Et là, il y a un gros enjeu qui est porté aussi dans ce PEPR d'Inabiode, de travailler de plus en plus sur des données naturalistes numérisées pour en tirer un certain nombre de leçons plus quantitatives.
Et utiliser l'intelligence artificielle pouvoir permettre ces modèles prédictifs qui ont quand même pour ambition de guider aussi ensuite les politiques publiques, c'est-à-dire de faire en sorte de stopper, voire inverser le déclin de la biodiversité et fournir aux décideurs les connaissances, les outils nécessaires pour ensuite engager un avenir durable et vivant. Donc ce n'est pas rien, c'est pas juste effectivement numériser des données, c'est quand même engager l'avenir de l'humanité.
C'est les rendre plus facilement manipulables par la communauté scientifique.
Et peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, puisque le temps file vite, Gilles Bloch, s'il devait y avoir une gouvernance idéale, vous y pensez? On retrouve cette notion de gouvernance idéale dans le manifeste, justement, où sont mentionnées aussi les notions de respect, de responsabilité, de sensible, d'émotion. Quand on parle de gouvernance, est-ce que c'est un vœu pieux dans le contexte d'aujourd'hui et il faut trouver d'autres solutions, finalement, pour engager l'avenir?
La gouvernance, il faut qu'elle soit enrichie par des savoirs locaux, des savoirs autochtones. C'est vraiment une des grandes leçons, justement, dans l'appréciation qualitative des aspects non utilitaires, des aspects non instrumentaux de la nature. Et donc, si on veut, on parlait au tout début de notre entretien de la ZAN, de la zéro artificialisation nette, on arrivera à mettre ça en place que si on met autour de la table d'autres acteurs que les aménageurs, les technocrates, avec tout le respect que je leur dois parce que j'en ai été un, qui gère les politiques publiques. Il faut des acteurs de terrain, il faut des voix un petit peu hors des sérails habituels des pouvoirs, si on veut donner aux non-humains toute la place qui leur revient et toute la place qu'ils doivent occuper pour les générations futures.
Donc parler, former, informer, et c'est le rôle aussi du muséum. On imagine le public qui attend avec impatience la reprise de beaucoup d'activités qui étaient les leurs, voire de nouvelles activités d'ailleurs qui pourraient peut-être être imaginées après la gestion de la cyberattaque. Qu'est-ce qu'on peut annoncer comme événement, des expositions à venir
Alors, bon, les activités ne se sont pas arrêtées malgré la cyberattaque.
Oui,
ouvert à l'automne des très très belles expositions au Musée de l'Homme sur les momies.
Mais il a fallu réduire la voilure, bien évidemment.
Et on a mis un petit frein à certaines activités. Et donc, à l'occasion des 400 ans, nous avons une programmation à nouveau très riche, une très belle exposition que j'ai vraiment souhaité. Et il faut au moins 2 ans et demi pour porter un projet de cet ordre-là autour des artistes au muséum qui ouvrira en septembre, où donc on va donner en partage tout ce patrimoine artistique, donc des sculptures, les vélins du roi, les peintures, les photographies qui ont été produites au muséum, qui ont été produites dans cette communauté naturaliste.
Donc ça, c'est à partir du 23 septembre 2026.
Absolument. Donc une exposition déjà en construction, parce qu'il faut du temps.
Et la caravane des statues de François Pompon, c'est une proposition.
C'est un secret qui sera. Non,
alors on ne le dévoile pas. Voilà. Vous reviendrez.
Non,
vous en parlerez.
qui sera dans l'exposition des artistes au muséum. François Pompon, qui est un sculpteur naturaliste que beaucoup d'auditeurs apprécient, j'espère, sera mis en majesté dans cette exposition.
On n'en dit pas plus. Merci à vous, Gilles Bloch.
Merci.
À découvrir donc le manifeste du muséum intitulé « La nature à ses justes valeurs », coordonné par Jeanne Lecomte et Frédéric Schluss. Bien sûr, informations, bibliographies sont à votre disposition sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous y attendent. Et puis j'en profite bien sûr pour vous souhaiter une très belle année 2026.